Marc Joly, bonjour. Nous vous remercions de nous accueillir au sein de votre laboratoire. Vous êtes sociologue, vous avez des travaux sociologiques que vous menez sur le champ de la sociologie de la violence morale conjugale et de la perversion narcissique. Alors, investir une telle catégorie de perversion narcissique comme objet d'étude sociologique, on est un peu étonné, on s'attend à ce que ce soit plutôt un domaine de psy. Pourquoi un sociologue s'intéresse à la santé mentale?
D'abord, c'est un sujet, la santé mentale, qui est travaillé par des sociologues depuis assez longtemps. On pourrait même dire depuis la fondation de la sociologie, puisque le livre qui marque un peu la naissance de la sociologie, c'est un livre sur le suicide de Durkheim, à la fin du 19e siècle. Moi, comme sociologue, j'ai essayé d'étudier la catégorie de perversion narcissique comme une catégorie qui circule dans l'espace public, que les gens s'approprient pour en faire quelque chose. C'est ça qui m'intéressait au point de départ. Donc, comme sociologue, quand on a affaire à une catégorie, là il se trouve que c'est une catégorie psy, la première chose qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi l'histoire de cette catégorie, d'où elle vient, où elle a été créée, dans quel espace. Donc, ça suppose déjà de repérer qui l'a inventée, qui l'a utilisée, quelle controverse elle a pu susciter dans son champ de création. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait. On pourra peut-être revenir dessus. Dans un second temps, je me suis intéressé à la circulation de la catégorie. Donc là, on a des outils statistiques, on peut faire de l'analyse textuelle, on constitue des corpus de texte, et on voit que la catégorie, dans la presse, puisque moi je me suis concentré sur des corpus de la presse nationale, dans la presse, la catégorie commence à se diffuser à partir de la fin des années 90 en lien avec un livre d'une psychothérapeute, psychiatre qui s'appelle Marie-France Irigoyen sur le harcèlement moral. Et ça explose vraiment après 2008-2009, voilà. En lien avec la problématique des relations conjugales essentiellement. Alors que le harcèlement moral, par exemple, c'est une catégorie qui va prendre plutôt dans le domaine du travail.
Est-ce qu'on peut définir un peu ce qu'est la perversion narcissique avant de plonger plus dans votre bouquin qui est consacré un peu à Emmanuel Macron, La pensée pervers au pouvoir aux éditions Anamosa?
Alors, c'est donc une catégorie, je l'ai dit, qui est une catégorie psy, créée par un psychiatre et psychanalyste qui s'appelle Paul-Claude Racamier, qui est né en 1924, décédé en 1996, et qui était un psychiatre en institution qui travaillait essentiellement avec des jeunes psychotiques. Et c'est autour de son travail clinique, thérapeutique sur les psychoses qu'il a été amené à s'intéresser à la perversion. Alors, en fait, il y a deux éléments qui l'ont amené vers la perversion. Il y a une réflexion sur les collectifs de soins, sur les rapports entre malades et soignants, entre les différents soignants. Et ça l'a amené à identifier des possibilités de comportement pervers de la part des soignants, très tôt, dès la fin des années 60, début des années 70. Et puis, il parle explicitement de perversion, à l'époque, de perversion de caractère, et il dit les institutions de soins doivent être constituées pour empêcher des pervers de caractère de nuire. Il le dit explicitement. Mais il réfléchit aussi sur la question de la perversion en lien avec la question de la psychose, parce qu'en fait, la psychose, sur un plan, en psychologie, on dit un plan un peu économique, il y a des rapports avec la perversion. Et la perversion peut être comprise comme un mécanisme de défense contre la psychose. Et la genèse de la psychose peut être aussi liée à des relations perverses dans la famille. Voilà. Le malade psychotique est souvent le malade désigné dans une configuration perverse comme celui qui va porter finalement tous les affects d'une famille dysfonctionnelle. Bon. C'est une réflexion très élaborée qui va ensuite courir tout au long des années 70, début des années 80. La première fois qu'il parle de perversion narcissique, c'est dans un rapport sur les schizophrènes de 78. Et la première conceptualisation vraiment aboutie, c'est milieu des années 80. Et par perversion narcissique, il entend un type de comportement qui suppose d'éjecter des affects négatifs, des conflits intravaillables, et de les éjecter au détriment d'un objet qu'on utilise comme un faire-valoir. Et en plus une dimension de plaisir, dans ce mécanisme-là, c'est-à-dire dans le fait de se débarrasser d'affects négatifs au détriment d'une autre personne qui va porter, elle, des affects qui ne sont pas elle et qui va être dans une sorte de déroute. Et il y a comme un plaisir à assister à ce processus-là.
On parle d'une manipulation toxique, d'accord?
Alors, c'est de l'ordre de la manipulation. D'ailleurs, dans la définition canonique, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il insiste bien, Racamier, sur le fait que cet objet est manipulé comme un faire-valoir. Donc, il utilise le mot de manipulation, ce qui a autorisé ensuite à rapprocher la notion de perversion narcissique de celle de manipulation qui a été construite par plutôt des thérapeutes cognitivistes. En gros, il désigne à peu près la même chose, sauf qu'on a les psychiatres, psychanalystes qui insistent sur les mécanismes intrapsychiques et interactifs et qui résonnent en termes de perversion narcissique, et puis ceux qui sont plus dans une logique comportementale qui vont identifier des comportements manipulatoires. Mais grosso modo, ça désigne les mêmes mécanismes.
La victime, donc dans le cadre des violences morales conjugales, la victime est en pleine confusion mentale. Souvent, elle est en malaise indicible, en sidération, état de stress post-traumatique, d'anxiété, d'épuisement. Enfin, voilà, le catalogue est assez large. Pour plonger dans le bouquin, on se dit que les analogies ne font pas forcément des homologies. Alors, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir dire que le peuple joue un peu le rôle de la victime dans le couple où la femme était, elle, victime de la violence morale conjugale dont on parle.
Il aurait fallu que je précise le troisième pan de mon enquête. Je le fais très rapidement. Ouais. Donc, il y a eu un premier pan de l'enquête, c'est la catégorie, voilà, son histoire, qui est Racamier, enfin, comment il conceptualise la perversion narcissique, pourquoi, comment, enfin bon, bref. Ensuite, objectiver les logiques sociales de circulation. Et dans un troisième temps, je me suis vraiment attardé sur la question des logiques d'appropriation pratiques par des gens. Et j'ai étudié une association de lutte contre la violence morale intrafamiliale. Et dans les faits, l'activité de cette association se concentre sur vraiment des problématiques de violence morale conjugale, et plus précisément de violence morale post-conjugale, en fait. Post-séparation liée à la garde des enfants. Donc là, je me suis vraiment concentré sur ces situations qui sont des situations extrêmement compliquées, souvent mal comprises par la justice, avec des victimes qui sont souvent, comme vous l'avez dit, en état de sidération, en état de stress post-traumatique, et qui doivent pendant des années et des années interagir avec un auteur de violence morale qui en plus s'appuie sur les institutions et manipule le droit. Alors qu'est-ce qui fait que je me suis intéressé à Macron dans le sillage en fait de cette longue enquête? Il y a deux éléments en fait. Premier élément, je ne le dis pas vraiment dans le livre, encore que je ne sais plus. Mais j'étais frappé par le fait que les psys avec lesquels j'interagissais dans mon enquête, quand on parlait comme ça, politique, avaient à l'égard de Macron une... c'était presque une détestation, quoi. Un rejet viscéral, en disant c'est vraiment un pervers, c'est vraiment, il est vide, c'est vraiment des trucs qui revenaient, il est vide, et je peux pas l'entendre, il me fait peur. Alors c'était des jeunes, hein, c'était des jeunes psys, donc une forme de, voilà, qui parle assez librement, quand même suffisamment expérimenté pour commencer à suivre des victimes, donc c'était des étudiants en cinquième année, en M2, très matures. Mais qui parlaient très librement de leurs ressentis. Et ça m'avait vraiment frappé. Des victimes aussi, qui disaient, oh là, lui, dès que je l'ai vu, je me suis dit, il me rappelle mon ex. Mais ça, c'est des petits trucs. Des victimes de violence morale. Des victimes avec lesquelles je travaillais dans le cadre de cette association. Mais c'était très informel. Très informel. Et bon, moi, j'étais concentré sur mon enquête et c'était pas plus que ça. Mais ce qui a été décisif, c'est de suivre la... Alors peut-être que mentalement, j'étais préparé à comprendre et à voir des choses dans ce qui s'est joué dans les mobilisations contre la réforme des retraites de début 2023. Et là, j'ai vraiment été frappé par le discours des opposants à cette réforme. Bon, je
Vous
rentre.
parlez effectivement de Laurent Berger.
Voilà, alors je me suis concentré sur Laurent Berger, ça m'a intéressé Laurent Berger parce que y avait quelque chose comme un face-à-face, quelque chose de très personnalisé entre Macron et Berger. Personnalisé du fait de Macron. Du fait de Macron. Qui a vraiment focalisé sur Berger une forme d'hostilité et d'agressivité. Et donc, ça m'a passionné. Alors que l'actualité politique, je ne la suivais plus vraiment beaucoup depuis longtemps. Là, je me suis replongé dans l'actualité politique, j'ai suivi toutes les mobilisations. Il y avait un côté en plus, enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait un côté suspense, il y avait un côté dramaturgie. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Je pense que Laurent Berger a vraiment cru qu'il arriverait à convaincre le gouvernement et Macron de céder sur cette réforme-là, cet allongement de 2 ans s'agissant de l'âge légal de départ à la retraite, qui est une réforme vraiment injuste, quoi, parce que ça concerne ceux qui ont commencé à travailler jeunes, donc les plus précaires, ceux qui ont eu les carrières les plus difficiles et souvent les métiers les plus difficiles physiquement et psychiquement. Donc c'est une réforme foncièrement injuste. Et il y avait plus que ça. C'est que, en plus de ça vient après le Covid. Et ça vient après la conscience qu'on a eue que le pays, en fait, il tient grâce aux caristes, grâce aux infirmières, grâce
Caissier.
ouais, voilà, aux caissières, aux chauffeurs routiers. Et que c'est eux, en fait, qui font tenir le pays. Et c'est à leur égard que Macron a semblé avoir des égards, justement, assemblés, avoir conscience et leur donner de la reconnaissance, de l'importance. Et quelques mois après, il fait une réforme aussi injuste. Et c'est là où on voit la différence, on voit une différence très, très importante entre quelqu'un qui a un sens des responsabilités, qui a une conscience que les paroles engagent, donc Berger, parce que Berger disait, mais il faut se souvenir de ça. Et d'autres opposants aussi le disaient, mais il ne peut pas avoir dit Macron que c'était eux finalement la première ligne, enfin c'est eux qui tiennent le pays, et il va falloir qu'on soit reconnaissant à leur égard, etc. Et puis faire une réforme aussi injuste qui les vise eux et elles en priorité. Et donc on avait face à face quelqu'un qui a conscience de l'humanité de l'autre, conscience de la parole, etc. Et quelqu'un qui, Macron, en face, de toute évidence, n'avait pas du tout ces capacités-là. Et ça a vraiment choqué. Ça a vraiment choqué. Ça a vraiment créé dans le discours des gens des manifestations qui, moi, me rappelaient celles des victimes avec lesquelles je travaillais. Donc, sidération, sentiment de déni, sentiment d'outrage. Donc, voilà. Ça, c'est ça qui m'a amené à vouloir creuser le cas Macron.
Je vous cite, c'est le déclic, hein. Ne pas comprendre et ne pas respecter les besoins et ressentis d'autrui au même titre qu'on s'attend à ce que les siens propres soient compris et respectés constitue une déviance. Voilà
C'est ça.
le déclic que vous citez. On pourrait se dire un opposant à Macron ou même un syndicaliste comme Laurent Berger, on s'attend à ce qu'il soit critique vis-à-vis d'un président de la République qui n'est pas forcément de son bord. Et ceux qui sont opposants citent souvent Macron en le caractérisant de taré, de fou, de forcené, de méprisant, d'irresponsable. Qu'est-ce qui fait, à part ce cas d'espèce de cette relation avec Laurent Berger, qu'après, en creusant, on peut affirmer que Macron est. Dans sa chair, un pervers narcissique.
Je suis assez prudent sur le qualificatif de pervers narcissique. Moi, comme sociologue, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens font des catégories. Une catégorie comme pervers narcissique, elle a aidé à mettre des mots sur des comportements, alors je reviens sur le couple, mais qui, dans le cadre du couple, sont des comportements qui ont une dimension pathologique, mais parce que d'abord et avant tout, ce sont des comportements, vous le venez de le dire, déviants par rapport à ce qui est attendu comme norme de comportement dans le couple. La norme qui est censée réguler les relations de couple, c'est l'égalité. Le problème de ces... Alors, on ne va pas rentrer là dans le détail, mais c'est quelque chose sur quoi je travaille vraiment beaucoup, c'est la question de le fait de genrer les comportements et les fonctionnements psychiques et interactifs. La possibilité qu'on peut avoir de les genrer, c'est-à-dire de situer les comportements des hommes et des femmes par rapport à des structures sociales. Bon, moi, je pense qu'il y a des différences. Voilà. Et l'une des différences, et quelque chose qui est très marqué comportement masculin, c'est la volonté de reproduire un comportement de domination, une position de domination, on va dire patriarcale, bien assise, etc. Mais vis-à-vis d'une personne qui n'est pas disposée à se laisser prendre, pardon, dans une relation de ce type-là, et dans un univers social, normatif, qui proscrit en fait les relations de domination comme ça. Bon. Ça, c'est le problème des hommes, finalement, de ces hommes-là qu'on a qualifiés de pervers narcissiques, ou qu'il a été utile pour des victimes de ces hommes-là de qualifier de pervers narcissiques pour mieux comprendre leur vécu. Mais moi, ce qui m'intéresse comme sociologue, c'est de comprendre le conflit de normes qui explique ces types de comportements-là, manipulatoires, etc. Donc, chez ces hommes-là, il y a un problème, c'est de ne pas être finalement à la hauteur des normes et des valeurs qu'ils ont pu mettre en avant. Souvent, des hommes violents, au départ, se présentent comme féministes. Voilà. Et c'est là où le déni est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans le déni de leur propre incapacité à être à la hauteur de ces normes-là. Donc, ils ne supportent pas qu'on les mette en contradiction par rapport à ces normes-là. Et d'un autre côté, ils sont dans le déni de l'autre. Alors, je reviens sur Macron. Macron, en fait, c'est à peu près la même problématique. Macron, dans sa vision des choses, il est un dominant légitime. Il est un souverain, au sens vraiment premier du terme. C'est-à-dire, c'est moi qui commande. Le souverain est celui qui commande. La parole souveraine est une parole sans appel. C'est la parole qui suscite l'adhésion de ceux à laquelle la parole s'adresse. Voilà. Qui même suscite l'obéissance, qui suscite l'exécution. Donc, ça, c'est la représentation que Macron se fait de sa parole et de son pouvoir. Et là, ce qui était pour lui insupportable, c'est que la CFDT, normalement, traditionnellement, elle est plutôt du côté de la réforme et du pouvoir. Et là, ce n'était pas le cas. Donc ça le renvoyait à une forme d'imposture. Macron, c'est quelqu'un qui s'est présenté comme à la base, enfin on l'oublie maintenant tellement qu'il s'est droitisé, qu'on voit que c'est vraiment un homme de droite, voire d'extrême droite. Il s'est présenté comme un homme de centre-gauche, moderne, avancé, progressiste, etc. C'est ça qui lui a permis d'être élu président de la République en 2017, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, il y a un truc impressionnant chez Macron, c'est que entre l'élection 2017 et l'élection 2022, il change l'électorat. En gros, il récupère l'électorat de Hollande en 2017. 2022, c'est plutôt l'électorat de Fillon. C'est quand même inédit, ça, dans l'histoire. Donc, le côté relativement inédit, c'est vraiment. C'est pour ça que j'ai insisté sur ce face-à-face Berger. Macron, c'est ce qui s'est noué dans cette relation-là. Parce que normalement, la CFDT, elle est toujours accommodante. Et généralement, un pouvoir essaye toujours de se mettre dans la poche un syndicat, ne serait-ce que pour être légitime et pour diviser le monde syndical. C'est quand même de bonne politique. Et ici, on voit le côté le verre à moitié plein. Ça permet que les intérêts des travailleurs soient quand même entendus au sommet. Voilà. Bon, c'est pas idéal, mais disons que ça permet de faire des réformes qui passent. Là, il y avait un truc qui ne passait pas.
Il y a une violence donc, qui s'exprime. Cette violence, ça s'exprime vis-à-vis de la population victime. Elle s'exprime par des paroles blessantes, plus ou moins calculées, des outrances multiples. On se souvient, dans la gare, on croise ceux qui ne sont rien. Enfin, c'est sempiternellement des phrases à l'emporte-pièce. Et dans le même temps, on a l'impression, la sous-estimation de sa propre dimension persécutrice.
Alors là, vous posez la question. Alors, de ce que je sais, il ne se rend pas compte. J'ai discuté avec des journalistes qui le suivent depuis très longtemps. Il ne comprend pas qu'on ne le comprenne pas. Il ne comprend pas pourquoi on le déteste. Il rationalise en disant, bon, bah, c'est comme ça, c'est parce que tous les présidents finissent par être détestés. Mais il ne comprend pas ce qu'il y a d'inédit dans les sentiments qu'il suscite. Et les sentiments qu'il suscite tiennent à la fois à ce qu'il est lui et à l'ampleur du décalage entre ce qu'il est et l'évolution des sensibilités de ce que les gens attendent du point de vue de ce que doit être un responsable politique. Là, récemment, il y a un livre qui est sorti d'un sondologue qui s'appelle Brice Teinturier, qui dit qu'en gros, 80% des Français veulent un vrai chef. Cela dit, il dit un truc intéressant, il dit, et ça recoupe, moi, mes analyses sociologiques, et j'essaye d'aller un tout petit peu plus loin, il dit, c'est pas forcément une demande d'autorité. Parce que c'est vrai que 80% des Français disent on veut un vrai chef, enfin voilà. En fait, ce que les Français, ce que les gens ont dans la tête, c'est l'idée que on doit être à la hauteur de sa fonction. Et finalement, ça vaut pour tous les milieux, tous les domaines, toutes les fonctions, tous les secteurs d'activité. Il faut que les gens soient à la hauteur. Et Macron, clairement, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend parce qu'il n'est pas adapté à ce que doit être un responsable politique dans les temps actuels. Voilà. Il est dans une vision totalement fantasmatique de son pouvoir et de son autorité. Donc je pense qu'il ne comprend pas, mais que inconsciemment, le fait que les gens, et même beaucoup de personnes avec lesquelles il peut interagir, alors généralement il est ghost, comme on dit, il les met de côté, mais le fait qu'on lui renvoie en permanence, finalement, le fait qu'on n'adhère pas à sa parole, qu'on ne se plie pas à ce qu'il estime être son autorité, c'est ça qui génère chez lui ce besoin tout le temps de disqualifier. C'est comme un mécanisme de défense. Il a besoin de disqualifier les Français, les gens, les oppositions, tout le monde en fait, tout ce qui n'est pas lui, tout ce qui ne reflète pas ce qu'il pense être son génie, sa supériorité, sa grandeur. Il a besoin, pour gérer la contradiction entre ce qu'il pense être et ce qu'on lui renvoie, il a besoin de disqualifier. Je pense que c'est un mécanisme qui est un mécanisme structurel chez lui. Il ne peut pas ne pas fonctionner autrement. Et ça a commencé, en fait, avant même qu'il soit président. Je veux dire, même quand il était ministre de l'économie de François Hollande, il a dit des trucs, mais qui auraient dû, en fait, le discréditer comme candidat de centre-gauche. Enfin, je veux dire, la manière dont il parlait des chômeurs, des gens qui portent des t-shirts, qui s'ils bossent, ils auraient un costume comme lui, alors que c'était un gars qui bossait depuis l'âge de 16 ans. C'est honteux. Mais il a besoin de ça. Et la phrase que vous citiez, c'est une phrase sur cette déclaration qu'il fait sur les gares où on croise des gens qui ne sont rien et des gens qui ont réussi. C'est dès le tout début de son mandat. C'est plus fort que lui.
Il est persuadé d'incarner la voie du juste, du vrai, de la réussite. Et dans le même temps, en fait, j'ai l'impression que son entourage proche, ses intimes, nourrissent cette perversion. On pense à l'épisode du Covid, en fait, où il était d'un coup spécialiste S épidémiologie. Il en ressort qu'il ne craint derrière personne. Il me semble de ne craindre personne. Il va face aux ouvriers, il va face aux agriculteurs, il reçoit 30 agriculteurs au salon de l'agriculture, en face à face, bras de chemise retroussé, et pendant 4 heures, et l'impression d'œuvrer dans le bien, de dire le vrai, le juste, et d'être plus intelligent que les autres. Donc en fait, tout ça le nourrit aussi.
Oui. Alors, On peut remonter effectivement à son enfance, à sa relation avec
On va
Brigitte,
y revenir.
qui est une relation où elle est son miroir qui lui renvoie l'idée de son omniscience, comme vous disiez, de son omniscience, de sa toute-puissance, de sa supériorité fondamentale qui justifie qu'il puisse commander. C'est ça le truc. Il est dans ce fantasme-là.
Je vous cite, hein, le pervers narcissique ne dépend jamais d'un objet, ne se sent jamais inférieur, il est un prédateur à qui rien n'échappe et à qui tout est dû, ne subit aucun remords, prend tout à tous, ne doit rien à
C'est
personne.
ça. C'est ça. Ce qui fait que, effectivement, vous disiez, il a un entourage qui l'entretient dans cette idée fantasmatique de lui-même. Mais c'est un entourage de plus en plus étroit. C'est vraiment des médiocres, pardon de le dire comme ça, c'est pas très aimable, mais c'est un fait. Les gens un petit peu avec de la personnalité ou un libre arbitre, une parole libre, ils les éjectent. Donc c'est un entourage assez médiocre. Et d'ailleurs, le point de départ de ce qu'il est, c'est il est dans un face-à-face avec une femme qui n'est pas prodigieusement intelligente, hein. Brigitte Macron, pardon de le dire comme
On
ça.
peut l'aborder parce qu'à un moment,
Ouais, non, mais on
ça
peut l'aborder.
bascule dans le bouquin, qu'on rentre un peu plus dans l'intime.
Oui, bah
Vous
c'est.
citez son immaturité affective, donc
Ouais.
via sa grand-mère, qui l'idolâtrait. Pour elle, elle était convaincue de son exceptionnalité aussi, de son statut d'élu. Donc Brigitte, le statut de Brigitte, et de sa mère aussi à Macron, qui est en fait la personne reléguée dans l'ombre.
C'est
Donc
ça.
voilà, tout ça est aussi peut-être un ferment de ce qui amène après cette personnalité et ce personnage.
Oui, j'essaie d'être prudent, c'est-à-dire que j'apporte les éléments dont on dispose, permettant de comprendre. Ah, il se trouve que ça rejoint des choses que Racamier dit sur la perversion. Racamier, c'est un psychiatre et psychanalyste qui a tout un ensemble de concepts pour essayer de comprendre ce type de personnalité qui, comme vous le disiez, a le sentiment de ne rien devoir à personne. Et il a tout un ensemble de concepts qui aident à comprendre ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une personne se sent redevable de rien. Alors, ça prend des aspects qui sont par exemple le fantasme, ce que Racamier appelle le fantasme d'auto-engendrement, c'est-à-dire de s'être engendré soi-même. C'est un peu ça. Et la relation à la grand-mère maternelle est une relation qui, au fond, lui fait sauter une génération, qui, au fond, ne lui permet pas de se situer normalement dans la suite des générations. Donc, bon, ses parents, c'est un peu quantité négligeable pour lui. C'est comme s'il ne leur devait rien. D'ailleurs, il a une phrase dans son livre Évolution où il dit, ils m'ont aidé à devenir celui que j'avais à être ou à devenir, enfin quelque chose comme ça. Comme si, finalement, il était appelé par une sorte,
Statut d'élu, donc.
D'élu, mais une sorte d'élection providentielle. Donc, en gros, il est dans une sorte de face-à-face hyper narcissisant avec sa grand-mère et Brigitte Macron prend le relais d'une certaine manière. Relais aussi d'une personne qui incarne l'éducation, l'enseignement. Sa grand-mère était directrice d'école, Brigitte Macron était enseignante, et qui lui renvoie l'idée qu'il sait tout et que comme il sait tout, il peut tout. Cette idée que le savoir l'autorise à. Je donne un exemple dans le bouquin où je pense montrer que c'est vraiment quelque chose de structurant dans cette relation-là, où je cite Brigitte Macron qui presque le dit mot pour mot. Il a pour lui, en gros, il a pour lui le savoir. Voilà, donc il faut excuser parfois ses maladresses, c'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il est méprisant. Je reviens sur le face-à-face célèbre avec ce jeune horticulteur qui lui dit, je vous ai écrit, vous m'avez pas répondu, je cherche du boulot, j'arrive pas à trouver. Et il lui dit, mais moi je traverse la route et je vous trouve du boulot comme plongeur dans un restaurant du boulevard de Montparnasse. Et c'est vrai que ça a choqué énormément. Et pour l'excuser, Brigitte Macron a dit, mais voilà, il a le savoir. Voilà, c'est le problème de l'assurance que lui confère le savoir. L'assurance que lui confère le savoir. Donc en gros, il sait tout. Donc il peut tout. et il peut tout se permettre, et foncièrement, il a toujours raison. Et d'ailleurs, cette anecdote-là, il est revenu plusieurs fois pour dire, mais j'ai raison, enfin, on sent que ça l'a vraiment touché. Donc il y a vraiment un truc qui est hyper verrouillé chez lui, ce sentiment que, il sait tout, il peut tout, et il ne doit rien à personne. Mais si vous voulez, ce type de représentation de soi a une fonction telle que celle de président dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est dramatique.
Et à contrario, il y a un élément qui est surprenant, qui est en fait qu'il est habité en fait d'imbécillité. Je vais juste citer Paul-Claude Racamier. Aucune créativité ne peut être de mise dans et pour la pensée perverse. Elle est précisément faite pour la détruire. Au plus banal, la pensée perverse, c'est l'esprit faux, le verbiage, la désinformation et l'exercice de la terreur. Au plus profond, elle excelle dans la transmission de la non-pensée.
Parce qu'il a compris ce que c'est ces mécanismes-là, qui reposent effectivement foncièrement sur une impuissance créative. Et quand je reviens sur la relation avec Brigitte, précisément, ce que je montre, c'est que au départ, Macron est fabriqué non pas pour être ce président. Qui pense tout savoir et qui finalement tout le monde voit qu'il est verbeux. Il est construit pour être un créateur, pour être un écrivain, pour être un artiste. C'est ça qui noue la relation avec Brigitte. Et en fait, il n'a aucune créativité. Alors là, il y a des documents que je ne peux pas révéler et des informations que je révèle pas dans le bouquin, mais que j'ai eues. Alors c'est peut-être des médisances, je n'en sais rien. Mais je connais des gens qui ont lu un de ses romans qu'il a proposé, qu'il voulait faire paraître chez un très grand éditeur. Enfin, on m'a dit c'était nul, nul, tellement nul que enfin, ça met mal à l'aise et on ne sait pas trop quoi faire. Donc. Je pense que cette espèce d'ambition politique dévorante, elle est venue d'une certaine manière compenser un manque de créativité fondamentale. Et d'ailleurs, il suffit de l'entendre, il n'y a rien. Le nombre de fois où, par exemple, enfin, je veux dire, il y a un côté presque tragique, le nombre de fois où il nous annonce une émission de télé révolutionnaire, où il va faire des annonces importantes, puis à la fin, il n'y a rien, rien. Ça, c'était la dernière en mai, je crois, 2024. Il était avec Boulot. Non, c'était en 2025, pardon, le temps passe vite, donc c'était après la sortie du bouquin, où il allait faire des propositions de référendum. Et à la fin, il n'y a rien, rien. Dans le livre, j'aurais voulu développer, je ne l'ai pas fait parce que c'était trop long, mais j'avais prévu de faire tout un long développement sur une conférence de presse qu'il avait donnée janvier 2024, une grande conférence de presse où il est derrière un drapeau bleu, blanc, rouge, enfin il y a un fond derrière bleu, blanc, rouge, ça doit être dans une salle de l'Élysée, et donc il fait une conférence de presse, et un sentiment de vide et d'impuissance qui est terrible, terrible, il est là, en plus le bureau du général de Gaulle, il est en hauteur, etc., les journalistes sont plus bas, posent leurs questions, et lui, il est là. Il dégage un sentiment d'impuissance terrible, terrible. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nourrit la perversion quand y a une forme de mégalomanie qui ne peut s'étayer sur aucune véritable intelligence, aucune véritable créativité.
La comparaison est un peu maladroite, mais dans un couple, la femme, il y a une personne à manipuler. Là, on parle d'une population qui se fait manipuler par un pervers narcissique. Vous avez à ce titre cette phrase. La question n'est pas de découvrir qu'il y a des fous et de se demander pourquoi. La question est d'essayer de comprendre. Personnellement, je n'y parviens pas, c'est vous qui le dites. Pourquoi ces fous sont-ils choisis comme représentants et dirigeants dans une démocratie représentative? L'autre élément de réflexion, c'est dans le cadre de nos institutions, qu'est-ce qui fait que ces personnes arrivent à triompher, à être élues et à passer les barrages électoraux?
Bon, je reviens dans le détail dans un des derniers chapitres sur qu'est-ce qui fait que Macron a réussi. Il y a un élément important, je pense, c'est le total cynisme du personnage. Il y a trois éléments qui apparaissent dans le champ politique français vers 2015, donc au moment où lui décolle. C'est d'abord le fait, d'ailleurs on est encore en plein dedans aujourd'hui, le fait que pour la première fois, il est acté, acquis, on le sait, que l'extrême droite sera au second tour de l'élection présidentielle. Donc c'est quelque chose que les acteurs politiques, et surtout à gauche, parce que traumatisme de l'élection de 2002, c'est quelque chose que les acteurs politiques de gauche intègrent. Ce qui perturbe, entre guillemets, les comportements normaux. C'est-à-dire, il y a des ambitions qui sont obligées de se réfréner un peu. Enfin, c'est une donnée qui est intégrée. Donc lui, il le sent, et comme il n'a aucune limite, il va utiliser cette contrainte-là pour squeezer tout le monde. Il y a un autre élément, et c'est là où je pense que la question du cynisme, de la perversion et de la manipulation est fondamentale. C'est-à-dire que, bon, s'il a réussi à se présenter à l'élection présidentielle, c'est qu'il a réussi à manipuler François Hollande. On peut se dire, c'est juste incroyable qu'un président de la République se fasse manipuler par un type dont, enfin, franchement, c'était clair que il préparait sa candidature alors qu'il était ministre de l'économie. François Hollande ne voulait pas le voir, mais parce que François Hollande avait intégré les règles normales du jeu que Macron a totalement perverti, contourné les règles du jeu politique. En gros, on attend un peu son tour quand même, un minimum. On a un parti derrière soi, etc. Mais Macron a profité d'un élément, c'est les attentats. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas pourquoi ce type a pu émerger tout d'un coup. Il y a deux choses liées aux attentats qui font qu'il a eu une forme de popularité et il a pu créer chez un noyau quand même relativement étroit d'électeurs, mais il a pu susciter quelque chose de positif. Il y a d'abord le fait que je pense que les attentats de janvier, puis ensuite il y a eu jusqu'au Bataclan, donc de Charlie, le magasin Kacher et puis... le Bataclan, donc de janvier à novembre 2015, je pense que ça a altéré la lucidité du président Hollande et du Premier ministre Valls. Je pense que ça les a vraiment touchés psychologiquement. Et donc, ils n'étaient peut-être pas attentifs à ce que Macron pouvait faire en parallèle. Et ce qui est dingue, c'est que Macron, pendant toute cette phase-là, il prépare. Il avance ses pions. D'ailleurs, il pensait, il avait prévu de faire un coup pour commencer vraiment à poser des jalons pour sa candidature, en novembre 2015. Il y renonce parce qu'il y a les attentats du Bataclan. Pareil, il pensait partir, en juillet 2016 de son ministère. Il partira finalement en septembre. C'est les attentats de Nice qui font qu'il ne part pas. Parce que ce n'est pas le moment. Voilà, il voulait faire une sorte de meeting. Donc, lui, il avance ses pions. Et ça, je trouve, enfin, les gens le disent, enfin, j'ai jamais entendu le dire, mais je trouve que c'est une amoralité totale. C'est-à-dire, d'avancer comme ça, parallèlement à quand même des traumatismes fondamentaux. Et le pire, c'est qu'il en joue de ça. Il parle de. Et sans être très précis, il dit la société française est traumatisée. On ne sait pas trop de quoi. On ne sait pas trop s'il parle des attentats. Et ça, il le dit à un journaliste qui est Mark Endeveld, dans le premier livre que Mark Endeveld écrit sur Marx. Il se présente comme une sorte de médecin qui est là pour. Donc, c'est comme un pervers. Vous parliez tout à l'heure des victimes et des auteurs dans les couples. Souvent, les victimes tombent dans la toile de l'auteur dans un moment où elle est un peu vulnérable. Voilà. Là, c'est un peu le cas. C'est-à-dire la société est vulnérable. Et donc, Macron, il joue sur ça. Il joue aussi habilement sur l'imaginaire de la deuxième gauche, qui est un imaginaire, on va dire, positif. Libérer les énergies. Donc, ça crée une forme d'optimisme. Alors que Hollande et Valls, finalement, sont un peu prisonniers du régalien, de l'autorité, de la sécurité, enfin voilà, de la lutte antiterroriste. C'est ingrat. C'est hyper responsabilisant, c'est ingrat. Donc lui, il ne parle pas du régalien. Il parle de libérer les énergies, la société civile, etc. Donc, il ouvre un futur et un horizon qui nous sort de cette ambiance mortifère avec ces attentats. Ça, je pense que c'est la clé qui fait qu'il a réussi à être élu président de la République en 2017. Et puis, il y a le troisième élément qui est plus connu, mais qui est quand même important, c'est qu'il y a une pression très forte des milieux d'affaires pour qu'il y ait une politique de l'offre. Donc ça, il en joue énormément. Il va se mettre au service des milieux d'affaires. C'était sa seule manière de bouleverser le jeu politique traditionnel, c'était d'être à fond soutenu par la presse, une presse aux mains des grands intérêts économiques du capital privé.
Sa cour, ses proches, les ministres qui travaillent avec lui, ils sont victimes ou est-ce qu'ils sont aussi pervers narcissiques, mais moindres, et du coup ils ont juste un maître à penser qu'ils vénèrent?
Alors je pense que il y a des victimes qu'on ne va pas plaindre non plus parce que la plupart s'en sortent très bien matériellement. J'ai eu des infos récemment sur une ministre qui n'est pas perverse par exemple. Quelqu'un qui la connaît très très bien. C'est pas une femme perverse. Par contre, c'est quelqu'un qui vit très très bien, qui a hyper profité de tout. C'est des gens, au fond, Macron
La soupe
est...
est bonne, quoi.
Ouais, la soupe est très bonne, et surtout, on a le beurre, l'argent du beurre, le sourire de... On a tout. On a tout, parce qu'on est entre privé et public. Donc, au fond, Macron est représentatif de cette haute fonction publique qui a fait sécession, finalement, de l'esprit de service public. Grâce à toutes les opportunités offertes par ses réseaux, ses ressources, les possibilités de rentabiliser ça dans le milieu, dans le secteur privé. Côté, il récupère des bien-nés qui sont, voilà, qui suivent le vent, les plus opportunistes, qui voient la possibilité de sauter les étapes. Donc des gens qui auraient jamais dû se retrouver là où ils sont, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu l'opportunité donnée, grâce à ce bouleversement, à ce séisme provoqué par Macron, pour des opportunistes de droite et des opportunistes de gauche, de sauter les étapes.
Ils se rendent compte que on peut être élu président avec du vent, avec de la non-pensée, comme on dit. Est-ce qu'on assiste à une pervers narcissisation du monde politique?
Alors moi je pense que c'est un processus social de fond. Ce processus social de fond, c'est comment dominer dans un espace social qui ne légitime plus les échelles hiérarchiques intangibles. Voilà. Et vis-à-vis de personnes qui ne sont pas disposées à se laisser dominer. Comment faire pour atteindre des positions indiscutables, des positions inatteignables? C'est ça le truc. En fait, le fantasme des dominants, c'est je suis hors d'atteinte. C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre que je suis en train de faire, la suite, enfin, je me régale avec les débats sur la taxe Zucman, parce que c'est vraiment ça, je veux dire. Au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le fait de ne pas supporter qu'on soit atteignable. C'est-à-dire, mince, il y a des universitaires, des obscurs universitaires, qui sont entrés en contact avec les administrations fiscales et puis qui ont réussi à montrer que bah, on s'arrange pour mettre notre argent dans des holdings, etc. On a payé cher nos avocats fiscalistes pour avoir ces mécanismes-là extrêmement compliqués. Et puis il y a des gens qui viennent nous, entre guillemets, nous démasquer. C'est insupportable. Mais c'est tout à fait représentatif d'évolution sociale forte où les dominants ne peuvent plus dominer en toute légitimité, donc en toute tranquillité. Ils ont des comptes à rendre. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. Ce qui fait qu'on est dans un moment où à la fois le progrès, l'égalité, on sent que ça avance, que c'est un processus vraiment de fond, et en même temps, on a des réactions qui sont d'une extrême violence. Là, par exemple, voir un président de la République en prison, ça heurte au-delà même du champ politique, ça heurte toutes, finalement, les personnes qui se sentent appartenir à une caste, qui se sentent appartenir à une classe supérieure, donc inatteignable. La supériorité, c'est le fait d'être inatteignable. Et donc c'est insupportable. D'où cette hystérie autour de... Donc, cette hystérie-là, ces outrances verbales, tout ça est révélateur, voilà, de processus sociaux de fond.
Votre bouquin « La pensée pervers au pouvoir » n'est pas simplement une critique symbolique. Derrière, elle dit beaucoup de l'impact sur la vie politique et démocratique. On vit une époque particulière où il y a un alignement des planètes qui fait qu'on assiste à une extrême droitisation, une fascisation. Ces personnes jouent quand même avec le feu. On pourrait prendre en parallèle la lecture du livre de Joan Chapoutot, « Les irresponsables », qui montre les corrélations qu'il y a avec ces moments particuliers, ces conjonctures particulières, qui font les bascules. Donc il y a ces personnalités pervers narcissiques, et il y a l'impact derrière qui les dépasse, qui va les dépasser, qui va nous dépasser. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Alors, j'ai lu le livre de Joan Chapoutot, c'est vraiment un livre très intéressant qui donne beaucoup à penser parce que le point commun entre eux, alors il y a des différences évidemment et il les met en valeur très, très finement, mais il y a quand même des points communs et les points communs, c'est du côté des dominants, pour dire les choses simplement, du côté de ceux qui pensent devoir dominer sans contestation. Le sentiment d'être cerné par des groupes, par des processus qui ont une vraie force et qui ont pour caractéristique de ne pas se soumettre à leur autorité. Finalement, les élites sociales, politiques, économiques qui vont favoriser l'arrivée des nazis au pouvoir, ce sont des élites qui se sentent un peu cernées par le mouvement ouvrier, par les mouvements de libération des mœurs, mouvements féministes, etc. Il y a une forme de sentiment de perte de légitimité. Et ça, quand les élites, entre guillemets, traditionnelles, sont dans ce sentiment-là, sont dans cet état d'esprit-là d'être en but à des processus qui remettent en cause les fondements même de leur autorité, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et il y a donc des points communs, je trouve, entre la période analysée par Joan Chapoutot et notre période actuelle. Alors il y a évidemment des évolutions, des changements, mais ça c'est le vrai point commun, c'est-à-dire quand les élites, quand les classes dirigeantes, quand les plus riches, les possédants, pour dire les choses comme les marxistes, se sentent cernés, sentent que leur légitimité ne va plus de soi et discutée, et en plus de ça, ont le sentiment d'avoir affaire à des groupes qui ne sont prêts finalement reconnaître leur légitimité, tout est possible. Enfin, je veux dire, ils sont prêts à toutes les alliances, y compris à faire alliance avec des racistes, l'extrême droite, etc.
Macron est un peu acculé, on dit qu'il est à 11% d'opinion favorable, ce qui est du jamais vu sur la Ve République. On imagine... compte tenu de la définition du pervers narcissique, qu'il n'est pas prêt à démission ou à être évincé, c'est quoi son talon d'Achille, quand même? Est-ce qu'il en a un?
Vu qu'il est sorti de la cuisse de Jupiter...
On a quand même vu Bayrou quand même réussir à lui tordre le bras pour être Premier ministre, ce qui était quand même...
Oui, 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 ça, oui, oui. Alors effectivement... Moi, je ne pensais pas qu'il arriverait à nommer le corps nu. Vraiment. Comme quoi, je me disais. Par contre, j'étais sûr qu'il allait nommer Bérou après Barnier. Je ne voyais pas comment il pouvait ne pas nommer Bérou. Alors, Bérou, c'est pas son. Alors, oui, c'est son talon d'Achille. Parce que c'est vraiment la personne dont il est dépendant et dont il sait qu'il a quand même une dette, même si ça l'embête de devoir le reconnaître, même s'il le méprise foncièrement. Il sait qu'il doit, entre guillemets, le traiter. Alors il le fait de manière très cynique, parce que c'est quand même le fait que Bérou ne se soit pas présenté en 2017 qui lui a permis de monter dans les sondages et d'être au second tour. Donc il sait que Bérou a joué un rôle important, donc il sait qu'il doit le ménager, mais pour lui c'est juste une contrainte, il faut qu'il le ménage. Voilà. Et donc il a dû effectivement nommer Bérou. Mais ce qui est incroyable, je trouve, et c'est là qu'on se dit que le système médiatique et le jeu politique fonctionne sans aucune mémoire, c'est que quand Bérou s'impose, c'est contre le Cornu. Il voulait nommer le Cornu. Et Bérou a dit, c'est hors de question, c'est moi. Et pour moi, Bérou, c'était sa dernière carte. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer comme carte après? Parce qu'il n'en a plus. Il n'en a plus. Parce que Bérou, Trépigny, attendait. Donc c'était son heure, c'était son moment. Et là, maintenant, il a réussi à remettre le corps nu. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il l'a fait. Et c'est là où on retombe sur la problématique des pervers, dans le couple, ou de ce qu'on appelle les managers toxiques, etc. C'est que des gens qu'il lâche jamais. Il lâche jamais. Et il joue la stratégie du pourrissement, de la montre, et à un moment donné. Donc il a réussi à nommer le corps nu, ce qui est une anomalie quand même assez incroyable quand on y réfléchit. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais dû être nommé. C'est juste pas normal, puisque c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire au lendemain des législatives. Bon, il a gagné du temps, il met Barnier. Il aurait été inconcevable qu'il mette le corps nu en septembre 2024, comme il était inconcevable qu'ils le mettent en décembre 2024, parce que c'était trop tôt par rapport aux législatives, où ils ont perdu quand même les macronistes. Mais il y arrive un an plus tard, à l'usure. Donc vous voyez, son talon d'Achille, qui était en fait, il faut gérer cet allié un peu encombrant qui est Bérou, bah, il a réussi comme ça à le gérer et à mettre celui qu'il voulait mettre, le cornu. Et là, maintenant, il prétend qu'il ne s'intéresse plus. Alors, c'est marrant parce que dès que je lis dans la presse des choses qu'il dit, je me dis, mais c'est l'inverse, quoi. Il dit, j'ai lâché, je ne tiens plus les rênes des politiques publiques, en gros. Voilà. J'ai lâché le manche. J'ai lâché le manche des politiques publiques. J'ai lu ça hier dans Libération. Donc, il dirait ça à ses équipes de l'Élysée. Ben non, en fait, il tient encore. Pourquoi il tient le manche? Ben parce qu'il a la possibilité de passer le budget par ordonnance. Et il le sait très bien. Et évidemment que le Cornu le sait aussi très bien, que sa politique à le Cornu, c'est la politique de la montre. Le Cornu, c'est intéressant le profil de le Cornu, parce que c'est typiquement le profil du porte. Du comment on dit porte, porteur d'eau. Du porteur d'eau du pervers. C'est le second couteau parfait. Parfait. Il est avenant, mais il est totalement dans cette stratégie qui consiste à ne rien lâcher, et tout ce qui est fait pour ne rien lâcher, et gagner du temps et donner le sentiment qu'on fait quand même des concessions, tout en mettant en scène de manière spectaculaire le fait qu'on fait des concessions, etc. Alors que tout ça va se terminer par des ordonnances. S'il n'y a pas de vote de la motion de censure.
Donc on comprend qu'il n'y a peut-être pas de talon d'Achille à ce pervers narcissique. Dans le cadre d'un couple, l'embastillement suffirait à rompre. C'est-à-dire que là, en fait, la manière de clôturer cette dépendance, entre guillemets, à Macron, ça serait que ça se finisse dans le sang. Alors, qu'est-ce qui va interrompre ça?
Oui, alors, excusez-moi, j'ai mal répondu à votre question. Non, mais parce qu'en fait, on n'y pense pas. Parce qu'il faut se projeter dans l'après, et c'est un peu le sens de la suite du bouquin que je fais. Il faut vraiment se débarrasser de ce type. Voilà. Tant qu'il est président, il n'y a rien à faire. Voilà, donc son talon d'Achille, comme vous dites, en fait. c'est qu'à un moment donné, il ne sera plus président. C'est ça son talon d'Achille. Voilà. C'est ça qui l'angoisse et qui l'obsède. Donc, il faut idéalement faire en sorte que ce type-là ne soit plus dans le champ politique et qu'on fasse le bilan de qu'est-ce qui a rendu possible Macron. Et là, je pense qu'il y a des gens qui doivent rendre des comptes. Je suis désolé, même François Hollande, je veux dire, il a des comptes à rendre sur ce type-là. Ce type-là a un côté monstrueux. Mais ce qui est intéressant avec les pervers, c'est que, entre guillemets, leur monstruosité, c'est leur vide et le fait qu'ils prennent au pied de la lettre, finalement, les structures, les institutions qui leur permettent de satisfaire tous leurs désirs. Donc, grâce à Macron, on sait que nos institutions de la Ve République sont problématiques. Et moi, j'attends les ordonnances avec grand plaisir, parce que quand on aura les ordonnances, si jamais on les a, ben on se dira, ben merde alors, même ça, le budget peut passer comme ça, sans discussion, sans rien. Il suffit qu'on joue la montre, etc. Donc, qu'est-ce qui empêchera que plus tard ce soit fait par des gouvernements qui se disent, ah ben tiens, tiens, on a utilisé ça, ben on va faire pareil. On va jouer la montre, on va jouer le pourrissement, et puis bam, on va faire passer le truc par ordonnance. On va, tiens, il y a la possibilité de faire des motions de rejet. Oh, ben normalement, c'est les oppositions, mais pourquoi ce ne serait pas nous? Ben, on va le faire. Bon. Donc, grâce à son sentiment de toute puissance qui fait qu'il se sent autorisé à utiliser toutes les armes possibles des institutions, politiques là en l'occurrence, ben, on sait qu'on a des mauvaises institutions. Sa représentation du monde, qui est pareil, prendre au premier degré le pouvoir économique, bah, nous aide à comprendre qu'il y a un problème dans la manière dont le champ économique est organisé, que ces milliardaires, c'est juste, c'est pas possible, que ces inégalités qui se sont creusées, c'est pas possible. Donc on doit faire le bilan. Donc l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport à, parce que la question que vous posez est fondamentale, son talon d'Achille, justement. C'est des gens qui pensent n'en avoir aucun, qui sont dans une toute-puissance. Donc, pour qu'ils reconnaissent que leur toute-puissance a des limites, il faut vraiment que ces limites-là soient fermement posées, enfin, que ce soit vraiment quelque chose de très fort. Voilà. Là, il peut y avoir un effondrement dépressif. Donc, mon inquiétude, c'est que l'extrême droite arrive au pouvoir. Que le bloc centre. Parce que lui, en fait, c'est ça qu'il veut. C'est clair. Moi, j'ai beaucoup hésité sur pourquoi il a fait la dissolution. Je me disais. Parce qu'il disait à tout le monde, on va gagner, on va gagner. Donc je pense qu'il y a une part de lui, il se disait, la gauche est divisée. Mais maintenant, il est assez clair qu'il voulait que l'extrême droite prenne le pouvoir, prenne Matignon. Et je pense qu'il aurait adoré être un président de cohabitation.
Donc sans inventer votre second opus, parce qu'il n'est pas
Oui,
question d'en
non, mais
parler
c'est.
maintenant. L'idée, c'est de parler de comment on change d'institution pour éviter que l'institution soit pourrie par ce type de personnage.
Voilà, bah, il y a mieux comprendre ce que c'est le déni, voilà, le déni pervers comme stratégie de domination d'une classe dirigeante en perte de légitimité, mais qui ne veut rien lâcher. Voilà. Donc comme mécanisme de défense aussi psychique. Et essayer d'approfondir la question du pouvoir financier. Parce que Macron a quand même bossé dans la banque. Toutes ces histoires de holding, etc. Je pense que ça a été la dernière manière pour les élites de. Je reviens à cette question, à cette problématique des positions inatteignables, d'obtenir des positions inatteignables, hors d'atteinte du regard des gens. Donc j'essaie d'approfondir ça. Et effectivement, d'encourager l'idée de mettre au premier plan la question des institutions. Et je pense que la gauche, là, a une responsabilité de ne pas assez parler de ça. Enfin, il faudrait que tout le monde se pose et qu'on dise, bon, la première chose à faire, avant d'appeler à dissolution, avant d'appeler à une élection présidentielle anticipée, c'est une réflexion sur les institutions. Et régler ces problèmes que la perversion de Macron, c'est le seul aspect positif de la perversion, c'est qu'elle met en lumière des choses. Voilà. Et il faut absolument poser ça. Parce que si on garde les mêmes institutions, enfin, on court vraiment, vraiment de grands, grands dangers.
En conclusion, je me demande s'il n'y a pas une étape, c'est une provocation, qui est omise. On sait qu'il va quelque part, il ne renoncera jamais. Et même cette conclusion à venir de 2027, de fin de mandat, est-ce que c'est une fin en soi? Je vous cite, le propre de la perversion est de mixer les temps, d'annuler les processus qui relient les êtres et les temporalités, afin de tout faire éclater et de tout reconstruire autour de soi et pour soi. De là à penser que 2032, déjà dans son
Ah
esprit.
bien sûr. Ah bien sûr. 2032 est totalement dans son esprit. Idéalement, ce qu'il voulait, c'était réformer la Constitution pour permettre un troisième mandat. Donc c'était son obsession. Il a vu que ce n'était pas possible. Ça joue beaucoup dans sa, dans, 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 dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu faire. Cette espèce d'anxiété liée au fait qu'il ne va pas pouvoir réviser les institutions et il ne va pas pouvoir se représenter en 2027. Donc le plan alternatif, c'est le chaos, faire en sorte que l'extrême droite arrive au pouvoir, démolir tous ceux qui seraient susceptibles de lui succéder et revenir en 2032. C'est ça son plan.
Marc Joly, merci encore
Bah,
de nous avoir accueillis. Je
merci
rappelle
beaucoup.
votre bouquin chez Anna Moza, La pensée pervers au pouvoir, et apparaître bientôt mars-avril 2026, le deuxième opus. Merci encore.